J'étais dans mon bureau quand il y a eu le tremblement de terre, en réunion avec deux collègues du sixième étage. Et dès que ça a commencé à trembler, on s'est mis sous les bureaux, puisque ce sont les consignes de sécurité que j'ai apprises en Martinique, qui est aussi une île sismique. Et quand ça a été terminé, je suis sortie et je suis allée voir tout au fond du couloir, parce que c'était un cul-de-sac, et nous avions les collègues de CITS. Et il y avait une grande poussière blanche partout, de la poussière de béton. Certains collègues qui essayaient de sortir, et donc on les a tous dirigés vers le bureau du chef de la communication, parce que le building avait perdu totalement son entrée. C'est-à-dire que les six étages étaient totalement donc on ne pouvait pas sortir. À ce moment-là, les militaires s'étaient organisés et avaient posé une échelle sur un mur qui reposait donc l'échelle sur une fenêtre, de façon à aider à faire sortir les personnes. Comme j'étais enceinte de 7 mois et demi, tout le monde m'a demandé de sortir en premier, ce que je n'ai pas souhaité faire sur une échelle posée sur un mur. Donc on a tous regardé pour essayer de trouver une autre sortie et on a vu un des murs de l'autre côté du bâtiment qui s'était ouvert et qui, par cette ouverture et les remblais de la destruction de ce mur, permettait de sortir de l'autre côté. Donc on a prévenu tous les collègues et on est sorti par là. C'était très émouvant et en même temps un état de choc pour tout le monde parce que je voyais quand on était arrivé devant l'entrée principale qu'il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que les six étages du building n'existaient plus. Il n'y avait plus qu'un amas de remblai au niveau du sol. Et j'ai eu cette phrase dans la tête, tu géreras cette information plus tard. C'est-à-dire que je sentais les gens en état émotionnel intense, en état de choc, mais j'étais très calme. Et comme je suis une ancienne officier de la Marine nationale française, je ne sais pas si c'est les formations que j'ai reçues, mais j'ai tout de suite demandé à la sécurité de mettre un cordon de façon à ce qu'on puisse compter les personnes qui étaient encore dans le building ou celles qui étaient sorties, de façon à ce qu'on sache un petit peu qui il fallait sauver. Et donc de fermer le portail extérieur du quartier général, d'organiser avec les collègues philippins, puisqu'il y avait un contingent philippin au quartier général, d'organiser eh bien, les heures qui ont suivi. Puisque le tremblement de terre a eu lieu un tout petit peu avant 5 heures du soir, la nuit est tombée 1 heure après ça, et il a fallu s'organiser avec tous les collègues qui étaient sortis du bâtiment et ceux qui étaient encore à l'intérieur et dont on n'avait pas de nouvelles. Nous avons perdu notamment le chef de la mission, le représentant spécial du secrétaire général de l'époque, M. Eddy Annaby. Nous avons perdu aussi son adjoint, M. Luis Carlos da Costa. Et nous avons perdu tellement, tellement de collègues civils, militaires, policiers, nationaux, internationaux, UNV. En tout, nous avons perdu 102 collègues. Les jours qui ont suivi, ça a été très compliqué pour tout le monde. On a été évacués vers la base logistique qui était au niveau de l'aéroport. L'aéroport ne fonctionnait plus à ce moment-là et on a dû réorganiser. Comme j'étais à l'époque la porte-parole de la mission, j'ai demandé à mes collègues comment on pouvait organiser toute la communication sur ce séisme. Il n'y avait pas encore de journalistes qui étaient arrivés sur place. Néanmoins, on avait réussi à communiquer avec certains médias à travers les téléphones satellitaires et notre photographe Logan Abbassi, qui avait pris des photos juste au moment du séisme, a pu envoyer certains premiers clichés vers les médias internationaux le lendemain même du tremblement de terre.
Bien sûr, je vous écoute et je vois que tout de suite, vous avez pensé à votre travail, vos collègues. Mais maintenant, quand vous réfléchissez à ce moment-là, est-ce que vous étiez vous-même dans un état de choc?
Non, je pense que le choc est venu plus tard. C'est-à-dire que comme je devais partir en congé maternité le samedi et que le tremblement de terre a eu lieu un mardi, tout était prêt. Mon successeur était déjà formé, présent sur place, mes valises étaient prêtes pour partir. Et donc, ça a un petit peu bouleversé ces choses-là. C'est-à-dire que moi, j'ai été évacuée le jeudi, donc 2 jours après le séisme, parce que tout le monde avait peur que j'accouche sur place. J'étais enceinte de 7 mois et demi. Mais la communication, les collègues ont continué de travailler vraiment de façon très dédiée. Le choc pour moi est venu 3 jours après, quand j'étais déjà en France depuis 2 jours, et où j'ai réalisé voilà, ce qui se passait en faisant le retour un petit peu sur cet événement. Mais je crois que oui, on était tous très concentrés sur le fait d'aider et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui sont là au moment où ça se passe. Donc après avoir accouché, je suis revenue en Haïti. Je suis revenue l'été 2010 pour assurer la transition entre le chef de communication de l'époque qui partait et son successeur qui arrivait. Et ça a été émotionnellement difficile de revenir, en fait. Je pense que le choc a vraiment fleuri à ce moment-là dans toutes ses réminiscences. Parce que voilà, je n'étais plus capable de travailler correctement. Les émotions me prenaient en permanence. Et pour une porte-parole, ça ne fonctionne pas vraiment d'avoir envie de pleurer à chaque fois qu'on fait une interview. Donc, j'ai dû me reconstruire. Je suis partie d'Haïti. J'ai travaillé au tribunal spécial pour le Liban pendant 2 ans avant de pouvoir revenir début 2013 parce que je voulais revenir et continuer le travail avec mes collègues internationaux haïtiens, avec les différents amis que j'ai rencontrés en Haïti et surtout pour le peuple haïtien parce que cette tragédie a bouleversé un petit peu le travail de tout le monde. Il y a eu beaucoup de pertes aussi au niveau des fonctionnaires nationaux. Donc l'État a dû aussi se reconstruire. Aujourd'hui, il reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes là et vous le savez sans doute, la situation n'est plus la même 9 ans après.
Si une telle tragédie devrait se reproduire aujourd'hui, est-ce que vous croyez que vous êtes mieux préparé qu'avant, que vous avez appris des choses, ou est-ce qu'on ne peut rien y faire?
Alors, quand vous dites vous, c'est moi, Sophie, donc on ne sait jamais comment on va réagir dans ce type de situation. Et quand on l'a connu une fois, moi j'étais surprise par ma réaction, par le calme que j'avais et l'esprit très clair que j'avais à ce moment-là et les réflexes que j'ai eus. On ne sait jamais comment on va réagir. Et peut-être que la deuxième fois, je réagirai de façon totalement différente et peut-être que c'est l'émotion qui prendra le dessus parce que je l'ai déjà vécu une fois. Ça, on ne peut pas s'y préparer. Néanmoins, le pays aujourd'hui est mieux préparé, je pense, parce que les Haïtiens eux-mêmes ont vraiment beaucoup appris de cette expérience. Il y a eu, il y a quelque temps, un séisme dans le nord du pays et les autorités nationales ont fait face d'elles-mêmes. Donc ça, c'est un grand pas en avant. Sachant que lorsque le séisme a eu lieu en 2010, la MINUSTAH était présente avec de gros moyens. C'était la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Nous avions des militaires, nous avions des policiers, nous avions des bureaux régionaux dans tous les départements du pays. Aujourd'hui, la nouvelle mission qui est là, la MINUJUST, est une empreinte très très réduite. Nous n'avons plus de militaires, nous avons quelques policiers de FPU, donc ce qu'on appelle les unités de police constituées, qui sont dans certains départements, mais pas partout. Nous avons des policiers individuels qui appuient les cadres de la PNH, mais du point de vue opérationnel, aujourd'hui, la PNH est en charge de la sécurité. Donc nous n'avons plus les moyens d'ingénierie que nous avions au départ en 2010 et qui nous ont permis aussi d'aider à déblayer les routes. Ces engins, maintenant, l'État en a acquis et sera sans doute à même de le faire si jamais ça devait se reproduire. La nouvelle mission des Nations Unies qui a été créée en octobre 2017 sera sans doute la dernière puisqu'elle a été créée par le Conseil de sécurité pour une période de 2 ans. Et cette période prendra fin en octobre 2019. Donc nous sommes en phase de transition aujourd'hui. Transition vers une nouvelle présence des Nations Unies en Haïti qui aura une nouvelle forme sans doute. Nous attendons la semaine prochaine la visite de la mission d'évaluation stratégique qui déterminera justement quelle sera cette nouvelle présence des Nations Unies en Haïti de façon à continuer d'aider le gouvernement. Parce que si beaucoup a été fait, avec plus de 10 élections réalisées depuis 2004, avec 3 présidents élus démocratiquement, il y a aussi, du point de vue de la sécurité, beaucoup qui a été fait depuis 2004, puisqu'il n'y avait que 4000 policiers haïtiens à l'époque. Aujourd'hui, nous en avons plus de 16 000. Donc, la MINUJUST, la nouvelle mission qui est en transition vers la fin du maintien de la paix en Haïti, se concentre aujourd'hui sur l'état de droit, parce qu'on sait à quel point c'est l'état de droit qui permettra de consolider les acquis de la stabilisation qui avait été permise par la présence de la MINUSTAH. Donc, il reste encore du travail à faire et bien sûr pour la sensibilisation sur les séismes. On entend beaucoup plus aujourd'hui sur les ondes des radios des interventions de personnalités ou de spécialistes qui attirent l'attention de la population sur les normes de construction. Donc tout a été fait et je pense que la population haïtienne aujourd'hui sera bien mieux préparée si jamais ça devait se reproduire.